Bonjour à toutes, bonjour à tous. Première de 2019 de ces bonnes choses, tous nos vœux pour commencer pour cette nouvelle année. Bienvenue donc dans cette émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global, une émission qui reste en 2019 en partenariat avec la plateforme des cultures du goût, Alimentation Générale. Bonjour Pierre Hiverna.
Bonjour Caroline.
Bienvenue dans cette nouvelle émission de 2019. Chaque dimanche en fin d'émission, vous nous proposez la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler ?
Eh bien, je vais vous parler de la pêche durable.
Et vous, Natacha Triou, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous nous faites la madeleine de quelle personnalité aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ce sera la madeleine de la styliste Agnès B.
À tout à l'heure, aux alentours de 12h15. Alors, je ne sais pas s'il existe des madeleines à l'amande, mais en ce jour d'épiphanie où la galette des rois et sa frangipane sont à l'honneur, nous allons consacrer notre plat du jour à un bien précieux qui vient de loin, vraisemblablement d'Iran, et que l'on cultive en France depuis le XVIe siècle, même si la production hexagonale est faible par rapport à la demande sans cesse croissante de ce fruit à coque devenu extrêmement tendance. Peut-être parce qu'on lui prête, pas toujours à raison d'ailleurs, toutes sortes de vertus. En tout cas, l'amande s'avère l'oléagineux préféré des Français qui en consomment désormais 30 000 tonnes chaque année. Comment soutenir l'amande made in France ? C'est la question du jour.
Dans l'amandier, en robe verte, suspendue, prête à s'accueillir, nous songeons à notre avenir, la destinée nous est ouverte. Bientôt, nous quittons la Provence, le soleil et les six galons. Nous voulons poser les jalons de notre rang dans l'existence. Pour vos mains et pour les visages, nous ferions un lait de beauté, mais en si piètre quantité que nous écartons ce présage. En pâtisserie, on nous pile, en frangipane, à pitivier. Naître et se faire écrabouiller, n'est-il pas de fin moins utile ? Princesse de la gourmandise, saura-t-on nous décortiquer, nous griller, nous sophistiquer en adorables friandises ? N'ayons point de sujet morose, nous aimerions faire sensation. Je vous avoue, notre ambition serait d'être des dragées roses.
Ah, je ne sais pas si Patrick Roger, l'un de nos deux invités du jour, ambitionne de faire avec ses amandes des dragées entourées de roses. Bonjour Patrick Roger.
Bonjour Caroline.
Bienvenue, vous êtes un des chocolatiers français les plus réputés, meilleurs ouvriers de France. On dit de vous que vous êtes le Rodin du chocolat, parce que vous avez pour habitude de sculpter vos chocolats. Depuis 4 ans, vous vous êtes lancé dans la production d'amandes et c'est cet aspect-là des choses qui va nous intéresser aujourd'hui. Et puis avec nous au téléphone se trouve André Pinatel. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. Vous êtes président d'honneur de la Chambre régionale d'agriculture et président du syndicat des amandes de Provence, futur amandiculteur, puisque je crois savoir que vous allez planter quelques 50 hectares d'amandiers en février sur vos terres. 5 hectares. Ah bah, vous voyez, j'ai déjà très envie que vous en plantiez beaucoup. C'est un bon début. L'amande, Patrick Roger, c'est le fruit ou c'est un fruit indispensable pour tout chocolatier qui se respecte ?
C'est carrément fondamental. C'est la base du praliné. Donc on les torréfie, on les caramélise et puis ensuite on va les broyer. Et puis c'est aussi la base de la pâte d'amande. Donc c'est essentiel.
Et quelle amande ? Douce, je suppose ?
Douce, j'ai 5 variétés, donc évidemment ça dépend du porte-greffe aussi, ça dépend.
Qu'est-ce que c'est le porte-greffe ?
Le porte-greffe, il y a un support et c'est greffé, donc soit on est sur pêcher, sur prunier, sur franc aussi, amandier sur amandier. Donc il y a beaucoup de choix et c'est surtout une agriculture ou une arboriculture qui est extrêmement complexe et aujourd'hui qui est difficile à entretenir.
Vous avez combien, vous, de
45 hectares.
45 hectares. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire, André Pinatel ?
Oui, j'ai encore 40 hectares pour essayer de rejoindre moi.
On dit qu'en France, d'ailleurs, il y a plusieurs variétés. On parle, alors je ne sais pas si c'est d'ailleurs du ou de la Ferragnès, Ferraduel, Lorane, André Pinatel.
Oui, ben ça, c'est les trois principales variétés qui ont été d'abord découvertes par l'INRA il y a quelques années et qui aujourd'hui, ça représente à peu près 50% des amandes qui sont cultivées en Europe, notamment en Espagne. Et chez nous, ça avait été un peu abandonné, la culture d'amandes, parce que justement, on n'arrivait pas à concurrencer nos collègues des États-Unis qui faisaient des amandes qui sont un peu moins bonnes que les nôtres, mais avec des prix beaucoup moins chers. Et la culture de l'amande, petit à petit, s'est abandonnée, notamment sur Valensole, au profit de la lavande et du blé dur.
Oui, Valensole, c'est la terre, la grande terre de l'amandier. Et pourtant, vous, Patrick Roger, vous avez choisi de vous installer dans les Pyrénées-Orientales.
Au départ, j'avais pas trop le choix.
Disons, c'était en 2014, hein?
Peut-être avant même. Bon. C'est possible. Bon. Je rentre du Venezuela, tout simplement. J'aide beaucoup la ceinture équatorienne pour le cacao, puisqu'on a beaucoup de fournisseurs. Finalement, je me suis dit, mais t'es vraiment con, parce que t'as des gens qui meurent de faim aussi sur notre territoire. Et c'est comme ça que je vais me lancer dans le produit qui est phare et qui est le plus important. J'ai 200 fournisseurs pour être chocolatier. Et évidemment, l'amande était un des énorme problème. Et c'est comme ça que je vais arriver en mécénat, et surtout dans les corbières au départ, parce que je vais pouvoir acheter 10 hectares. Et c'est comme ça que l'histoire va commencer. Et après, si on n'étoffe pas, on s'aperçoit tout de suite que c'est impossible à gérer. Et c'est vraiment très très difficile d'en vivre, effectivement.
Vous dites énorme problème. Est-ce que c'est parce que 80% du marché mondial provient des États-Unis, la fameuse amande californienne, qu'ensuite viennent l'Australie, l'Italie et l'Espagne, et très 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 loin derrière la française, puisque, je disais, on en consomme quelques 30 000 tonnes par an en France, mais la production hexagonale s'élève à maximum 700 tonnes. La France est le cinquième producteur en Europe, 5% de la production mondiale seulement. Est-ce que c'est parce que c'est très peu par rapport à la demande sans cesse croissante, que c'est un problème, Patrick Roger ?
Ouais, le problème, il est économique. Il est évident que c'est extrêmement difficile de vivre avec l'amande parce qu'elle n'est pas payée à son juste prix. C'est simplement un problème de main-d'œuvre. Nous, on a 3 personnes qui travaillent sur les jardins, sur les champs. Donc effectivement, il faut bien les payer. Et heureusement qu'il y a le chocolatier qui vient en mécène aussi. C'est évidemment, c'est lui qui est le responsable de cette histoire. Sinon, je pense qu'acheter de la terre aujourd'hui, partir de zéro, c'est vraiment extrêmement dur.
Pourquoi on n'en a pas plus, André Pinatel, en France, alors que c'est censé être la meilleure ?
Simplement, pour la petite histoire, il faut savoir que dans les années 1910-1920, la capitale de l'amande mondiale, c'était Aix-en-Provence. Donc ça veut dire que c'est une terre de tradition. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que des endroits où on peut cultiver à moindre coût fait que les gens ont abandonné, puis d'autres questions, disons, qui sont greffées là-dessus. Mais aujourd'hui, des gens comme M. Roger, des gens comme des Calissons, du Roi René, ont décidé justement de travailler le plus possible avec de l'amande française. Et donc, les agriculteurs, nous ont sollicité pour essayer de remettre en place une filière amande. C'est comme ça qu'on est en train de créer le plan de relance de l'amande qui devrait permettre de planter 200 hectares par an pendant 5 ans pour arriver à 1000 hectares. Donc ça, c'est la première base. Et après, selon comment se passe cette première étape, on pourrait éventuellement continuer. Mais avant d'aller plus loin, il fallait qu'on essaye, on teste notamment grandement mature, avec les conditions de production d'aujourd'hui, avec l'irrigation, parce que c'est vrai qu'on a du mal. Vous savez, le plateau de Valensole, c'est un plateau très sec. Aujourd'hui, il y a une partie du plateau qui est à l'irrigation. On devrait pouvoir planter des amandes dans la Croix, sur Valensole et un peu partout, dans le Vaucluse, dans la Drôme.
On dit d'ailleurs que l'amandier a besoin d'un climat plutôt chaud, plutôt sec. Alors, d'où la Provence, hein, en France, oui. D'où la Californie, aux États-Unis. Mais dans un film qui a été diffusé sur France 5 il y a un an, dans lequel on vous voit d'ailleurs, Patrick Roger, un film signé Hélène Ekman sur la face cachée de l'amande et les secrets de ce fruit sec préféré des Français, on voit que c'est un arbre qui demande beaucoup d'eau. Et en Californie, qui subit, on le sait, depuis quelques années, beaucoup de sécheresse, les producteurs en viennent à forer des puits pour trouver de l'eau, ce qui est un véritable désastre écologique. On n'en est quand même pas là en France, rassurez-nous, Patrick Roger.
Si, c'est extrêmement compliqué. Donc, une des parcelles que l'on a achetées, les 22 hectares aussi, il y a l'irrigation. Et aujourd'hui, tout ce que l'on plante, on est sans irrigation. Donc, on est en sec, sec sur sec. C'est pour ça que le choix du porte-greffe est super important aussi. Et ce que on essaie vraiment de travailler dans ce sens où, et aussi j'ai de la vigne. Donc ça aide pas mal en termes de reconversion pour essayer évidemment de mieux gérer, d'être plus durable surtout, parce que effectivement c'est consommateur d'eau. Et le fait de planter en sec, bon là ça, ils ont 3 ans, ils ont super bien démarré. La période a été très très humide, on dépend vraiment du climat, on est vraiment des paysans toujours mécontents, ça c'est normal. Il a beaucoup plu jusqu'à mars vers Perpignan, et puis après on a eu 6 mois sans eau. Et finalement ils vivent très bien, donc sauf qu'ils vont aller chercher, ils vont puiser beaucoup plus loin. Et souvent je dis, aujourd'hui on travaille du ver de terre au Sagittaire, vraiment on va très très loin. Il faut vraiment travailler cette terre durablement. et avec toute sa biodiversité, sinon on est cuit, quoi.
Sinon on est cuit, oui, c'est le cas de le dire, puisque c'est tout sec et c'est très chaud. André Pinatel, vous parliez d'un plan de relance de la filière amande en PACA. Il se trouve que le syndicat des amandes de Provence est tout récent, hein. Il a un an et demi, deux ans seulement aussi.
Oui, tout à l'heure, quand on m'a posé la question, je voulais 2017, mais ça passe tellement vite. En fait, c'est le 6 juin 2016.
Voilà, c'est 2016 exactement, donc deux ans cette année.
Voilà, donc c'était quelque chose qui a eu le jour. Et le souci, c'est qu'à partir du moment où ça s'est su qu'on allait démarrer cette filière, bon, les pouvoirs publics nous ont dit on va vous donner un coup de main, la région va nous donner un petit coup de main. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est le seul point qui était un peu difficile, c'est que les gens qui veulent planter aujourd'hui, beaucoup veulent planter de l'amande en bio. Mais il y a un prédateur à l'amande, qui est une mouche qui pique et qui va manger la petite amande à l'intérieur de la coque, qui est très difficile à maîtriser. En bio, on est obligé de mettre des insecticides. Et là, on a rencontré donc une firme qui est en relation avec justement les Iraniens. Vous parliez tout à l'heure du berceau de l'amande qui est l'Iran. Il y aurait un prédateur naturel là-bas et ils sont en train de voir comment l'acclimater chez nous. Et ils nous ont dit, dans 2-3 ans, on sera capable de faire de l'amande bio sans problème. Alors, vous voyez que ça, c'était vraiment un point crucial que l'on a relevé depuis maintenant quelques mois, avec une structure qui va s'occuper de ça en relation avec l'INRA.
Bah, ça donne de l'espoir, Patrick Roger.
Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, pour l'instant, en tout cas.
Ouais, ça donne de l'espoir, mais il faut vraiment être sur le terrain et c'est pas simple.
Oui, vous dites beaucoup, c'est très dur. On a presque envie de vous demander comment ça se fait que vous continuez.
Mais parce je suis taré, moi, donc c'est parfait. Mais mais c'est un vrai métier, quoi. C'est vraiment compliqué. On manque d'ingénierie aussi. Donc nous, on travaille, on essaie de développer aussi toute cette base, parce qu'il faut vraiment du savoir. Et on a aussi perdu, évidemment, tout ce qui était le savoir-faire des anciens aussi. Moi, j'avais un garçon qui était sur les champs depuis 27 ans. Donc ça, sur la partie normale, en culture traditionnelle, il est parti à la retraite. Évidemment, il faut bien remplacer. Et surtout, on a une vision qui est nouvelle. Aujourd'hui, on veut moins d'eau, on veut moins traiter, on veut faire moins de choses. On veut essayer vraiment d'être plus durable et plus raisonnable, surtout. Et c'est dans ce sens. Et ça, c'est extrêmement difficile d'arriver à le faire.
Et puis, évidemment, on veut tout ça en même temps qu'on veut en manger plus. Parce que je disais, les amandes, là, je crois que la consommation en France a doublé en 10 ans. Aux États-Unis, c'est 40 kilos d'amandes qui sont consommées chaque seconde. Donc, on est dans des chiffres considérables. Alors, c'est vraiment le fruit à la mode. On lui prête d'ailleurs beaucoup de vertus. Alors, je ne sais pas si c'est toujours vrai. On dit que c'est l'équivalent d'un œuf pour les protéines, d'une banane pour les fibres, d'un avocat pour les oméga-3. C'est un cocktail anti-fatigue, anti-cholestérol. C'est bon pour la ligne, c'est anti-rides, etc. Ça, c'est un atout pour les os et une arme contre le diabète. On n'en fait pas un peu trop, quand même.
Je vais bien, moi, alors, dans ces cas-là.
Comment ? Oui, vous êtes en pleine forme.
Ouais, je suis en pleine forme, c'est très clair. Je sais pas. Après, ça, c'est vraiment le côté scientifique. Je pense que nous, en tout cas, dans notre travail, il est essentiel que si on n'a plus ce fruit, on peut plus du tout travailler. Donc, c'est vraiment le travail du confiseur et du chocolatier. Et c'était vraiment pour ça que je me suis aussi engagé. C'était fondamental avant même de savoir si c'est bon pour la santé. C'est juste quelque chose où c'est un vrai besoin. Alors, évidemment, cette culture culturelle, ça s'étale de plus en plus. Bon, après, je sais pas ce qui se passera.
André Pinatel, votre syndicat, donc créé en 2016, ça fera 3 ans, donc à l'été 2019. Il a quel but ? Avoir des aides à la plantation, c'est quoi ?
Oui, ça, les aides à la plantation, c'est la cerise sur le gâteau. Si on peut, ça sera bien. Mais le tout, c'est qu'il faut qu'on arrive à planter et à persuader les agriculteurs que l'amande, en la travaillant correctement, on arrive à tirer un revenu correspondant à la vigne. La vigne, peut-être les grands crus, mais la vigne classique, vous voyez, donc ça serait déjà pas mal. Et tout à l'heure, vous parliez de la consommation. Il faut savoir que la consommation mondiale, depuis 3-4 ans, elle augmente de 10% par an. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un engouement un peu partout, pas seulement sûrement en France, parce qu'on a peut-être, nous, redécouvert l'amande, mais un peu partout dans le monde, et notamment aux États-Unis. C'est quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter, à mon avis.
Et vous partagez le sentiment de Patrick Roger qu'un savoir-faire s'est perdu, paradoxalement, au moment où on demande plus à manger des amandes ?
Parfait. Et c'est pour ça qu'on travaille avec l'INRA. Vous savez, l'INRA, c'est l'Institut National de la Recherche Agronomique en France, qui nous aide justement à voir les variétés, les adaptations de variétés avec des porte-greffes, comme ça se disait, on a dit ça tout à l'heure. On a besoin de savoir est-ce que l'irrigation est indispensable à la vie de l'amandier ? Peut-être pas, mais au moins au départ. Donc comment on peut utiliser des porte-greffes un peu moins sensibles à la sécheresse ? Tout ça, c'est des points qu'on va travailler dans les mois qui viennent avec les nouvelles plantations qui sont en train de se faire maintenant.
Allez, vive l'amande made in France. C'est le sujet de notre émission Les Bonnes Choses aujourd'hui. Merci beaucoup André Pinatel d'avoir témoigné et puis vive vos 5 hectares d'amandiers à venir cette année 2019. Merci à vous.
Par contre, j'irai sûrement regarder un peu les plantations de Monsieur Roger parce qu'il m'a donné,
quand vous voulez.
Voilà. Donné envie d'aller voir ce qui se passe.
Vous y êtes invité. Merci beaucoup.
Merci madame, merci Monsieur Roger, merci. Merci.
Vous restez avec nous Patrick Roger pour la suite.
J'ai trouvé la fête.
Vive le roi!
La suite qui commence donc avec la Madeleine de...
La Madeleine de Agnès Troublé, hein, que l'on connaît plus sous le nom d'Agnès B. La grande dame de la couture m'a reçue dans ses ateliers parisiens et dans le prêt-à-porter, elle est l'une des pionnières du Made in France. La styliste est également mécène et collectionneuse. Elle s'apprête à ouvrir sa propre fondation d'art contemporain à Paris d'ici l'été. Alors on l'évoquait à l'instant, la douceur de l'amande. Eh bien prolongeons encore la douceur du vivre avec la Madeleine d'Agnès B.
Moi c'est le café au lait de la ferme où j'étais quand j'étais toute petite, dans le Perche. Ça s'appelait Culoiseau. C'était un endroit de mon paradis sur terre. Et le matin, il y avait dans la cuisine une grande marmite de lait sur le coin du fourneau, là. Et puis, il y avait une cafetière avec une... Je sais pas, il y avait une chaussette où il y avait le café dedans, vous savez, c'était un petit cercle en métal et puis une espèce de chaussette et le café dedans et on mettait l'eau dessus. C'était une cafetière qui était, je crois, émaillée, d'ailleurs. Et il y avait les hommes, comme on disait dans la ferme, qui venaient, ils s'étaient levés très tôt, ils venaient prendre le petit déjeuner, là. Et il y avait le pain de 4 livres, qui était un pain qu'on achetait chez Monsieur Moulin tous les dimanches, à Moutier-au-Perche, et qui nous tenait la semaine pour la famille, il y avait les parents, fermiers, bergers, bergères, parce qu'on m'appelait Agneau, ma famille m'appelait Agneau. Et ce café au lait du matin, avec l'odeur du pain qu'on coupait comme ça, c'était beau de voir couper ces grandes tranches de pain, des tranches bien plus grandes que le pain de poêlade, vous voyez, c'était un pain de 2 kilos, le pain de 4 livres. C'était ça, il avait une odeur. J'ai jamais absolument retrouvé la même odeur. C'était magnifique ce pain. Pour moi, c'est le plus beau petit déjeuner que j'ai jamais pris de ma vie, je crois. Et c'était tous les jours quand j'y étais. C'est ça qui était magnifique. Avec la vache qu'on avait trait, il y avait les vaches, les cochons, les poules, les lapins. Il y avait tout là-bas. Et le beurre, et le lait, et le café, et l'ambiance. Et ces hommes qui parlaient avec leur accent de là-bas, là, ils roulaient un peu les airs et tout. Moi, ça me faisait rire. C'était un moment génial. J'étais là, j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans. J'y allais tous les ans un peu. Moi, les dessins que je fais, souvent, c'est inspiré aussi par la base que j'ai vue. Ces blouses des dames avec des petits pois, ou des toutes petites fleurs sur des fonds foncés. Moi, j'ai toujours adoré ça, je continue à faire ça toujours. Mais c'est bien avec le retour à la terre actuelle. Moi, je fais une mode pour porter à la campagne aussi, pour l'été prochain. Parce qu'on a besoin de ça. C'est tellement joli, les filles, dans la campagne, moi, je trouve.
Voilà la Madeleine d'Agnès B, enregistrée par Natacha Triou. Patrick Roger, on parlait de la douceur de l'amande. Vous avez devant vous 3 boîtes signées Patrick Roger que vous nous avez apportées, enfin que vous avez déposées sur la table, en tout cas pour l'instant. À quoi correspondent ces 3 boîtes à différentes variétés d'amandes? J'en vois au moins une chocolatée, mais les deux autres, je ne vois pas la différence entre les deux boîtes.
Pourquoi on se bat? C'est simplement que la France a la meilleure amande du monde.
Donc, mais en ça, quoi c'est... En dehors du chauvinisme?
Non, là c'est très clair. C'est que, je ne sais pas, moi, pour moi le goût n'a pas de frontières. Donc je vais aller chercher le meilleur là où il est, j'ai aucun problème. Si la pistache elle est en Iran, en Turquie ou en Syrie, et on sait en Sicile, on ira là où elle est la meilleure, j'ai aucun problème. Par contre, il faut être très clair que l'amande, le meilleur berceau, c'est, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est vraiment toute cette Provence en descendant jusqu'à Perpignan. Et là, j'ai apporté donc, c'est la même variété, et qui est vraiment différente. Donc suivant le territoire, le terroir, évidemment, ça va changer beaucoup. On n'a pas trop parlé de la Corse aussi, la Corse produit un petit peu aussi. Pas mal même.
Il paraît.
Ouais. Mais ça a vraiment une incidence. Pourquoi derrière les Pyrénées, elle est différente de...
Mais c'est quoi une bonne amande?
Ah ben, évidemment, c'est dû qu'à une seule personne. Ben, entre autres, chez nous, c'est à moi, bien sûr. C'est mon corps qui décide, c'est même pas mon cerveau. Et effectivement, faut pas du tout qu'on ait, par exemple, sur un choix qui est dans cette variété, on doit pas avoir d'amande amère qui se rimballe, parce que, tout simplement, on va manger les amandes une par une après. On va pas les broyer, on les met pas ensemble. Et donc, si vous en avez une qui est un peu amère, une qui est moins amère, ou... qu'importe, mais évidemment c'est très compliqué. Et c'est là la grande difficulté, c'est comment on fait pour avoir sur le même arbre, être constant. Par exemple sur des tomates dans le jardin à Sceaux, sur le même pied, il n'y a pas une tomate qui a le même goût. C'est la même chose sur l'amande. Donc,
Est-ce que c'est une question de taille aussi? Est-ce qu'il faut qu'elle soit de petite taille, de grosse taille?
Alors il y a le format aussi qui est essentiel, par exemple sur la caramélisation. Et si on n'a pas le bon format, ça ne fonctionne pas. Et c'est aussi comme ça que je me suis engagé dans l'amande. C'est qu'au départ, je me servais amande de Provence, je crois. Et puis une dame qui est partie à la retraite. Et tout simplement, on ne pouvait plus se servir, on n'avait pas le volume. Quoi. Et ça a vraiment été un vrai déclic. Et un vrai choc. On ne pouvait pas abandonner cette matière qui est juste sublime. Et c'est pour ça qu'on est autant engagé dedans.
Est-ce que vous faites, je vous disais tout à l'heure en souriant, après le poème de Monsieur l'Écuyer qu'on a entendu, qui est un poème de 1948, hein, entendu sur la radiodiffusion française, il parlait des dragées en robe rose. Est-ce que vous faites encore des dragées aux amandes? C'est une tradition de les offrir, en tous les cas, en France, aux jeunes mariés. Alors, ça remonte à loin, c'est un symbole de fertilité pour les Romains. Bon, est-ce que vous en faites encore, vous,
parce nous, on ne fait pas de confiserie, donc, avec du sucre apporté.
Chocolatier, hein,
ouais,
je répète.
Je suis vraiment chocolatier. Ouais. Par contre, j'ai un collègue qui s'appelle Charles Chavanette et qui vient nous faire des amandes. Et lui, il fait des dragées avec. Mais c'est de la balle, quoi. C'est un truc de dingue. Parce que non seulement il met peu de sucre, en plus, on a les meilleures amandes du monde, ça c'est très clair, et sans doute le meilleur savoir. Donc, une fois qu'on réunit l'ensemble, bah oui, on est très très fort. Mais bon, s'il n'y a pas d'amandes aujourd'hui, c'est simplement dû à l'économie, au coût de production.
Vous savez, Patrick Roger, aujourd'hui, 6 janvier, c'est le jour de l'épiphanie. C'est pas pour rien qu'on fait une émission aussi sur l'amande aujourd'hui. Alors, il se trouve que nous avons au téléphone une pâtissière qui fait des galettes. Alors, vous êtes chocolatier, ni confisier, ni pâtissier. Je vous demanderai quand même si vous prévoyez de faire une galette un jour ou l'autre avec votre crème d'amande et vos amandes délicieuses venues de France. Claire Damon est avec nous par téléphone. Bonjour, madame.
Bonjour.
Pâtissière de la boutique des gâteaux et du pain, des boutiques, vous en avez deux à Paris.
Exactement.
Élue meilleure pâtissière boutique en 2018, c'est le prix d'excellence relais dessert, c'est en quelque sorte les Césars de la pâtisserie. Vous avez travaillé avec Pierre Hermé et Christophe Michalak avant d'ouvrir votre propre boutique et vous faites des gâteaux sensibles pour responsabiliser au bien manger qui passent notamment par une galette qui est faite avec des amandes exclusivement françaises. C'est une revendication de votre part ?
Ah oui, totalement. En termes de goût, en termes de... Enfin, déjà, parce que le plus important quand même dans nos produits, c'est quand même le goût. Et puis après, derrière, il y a l'éthique. C'est-à-dire que à un moment donné, je me suis posé la question. On n'a jamais travaillé avec de l'amande californienne. En revanche, on travaille avec un peu d'Espagne. Et je me suis quand même posé la question sur d'où ça vient, comment c'est fait. Et du coup, on a transféré totalement toute notre production, tout est fait uniquement avec des amandes françaises à l'heure actuelle.
Qui viennent de Provence. Oui,
exactement,
de Provence, on y revient. C'est aussi un travail artisanal. Alors Patrick Roger nous disait à quel point c'était difficile de cultiver des amandes qui plus est responsables. C'est aussi très difficile finalement de réaliser des galettes fabriquées à la main, comme c'est votre cas, Claire Damon. Une à une dans l'atelier, 6 jours de fabrication pour une galette?
Oui, parce que les choix qu'on a fait sur l'excellence en choisissant, et je rejoins Patrick Roger là-dessus, c'est vrai que c'est la meilleure des amandes. Elle a un goût extraordinaire, mais ce choix-là, on l'a fait également sur notre farine et sur notre beurre. Et du coup, nous, on a des matières qui sont extrêmement peu permissives, donc elles ont besoin de temps pour se travailler. Donc le feuilletage, il faut qu'on y aille vraiment. On a besoin de temps et on ne peut pas réduire ces temps. Donc il nous faut 6 jours pour faire notre feuilletage et pour incorporer cette crème d'amande, et etc., etc. Et là, je ne parle même pas de la cuisson. Donc c'est vrai que pour nous, on rentre dans une période assez intense.
Sachant qu'en plus, cette année, Claire Damon, vous proposez à des gâteaux et du pain 3 galettes, une galette
exactement,
à l'amande,
ouais,
une galette polonaise au cédrat et une galette aux saveurs de l'enfance et au goût de l'Ardèche 100% châtaigne. Je ne fais pas le calcul du nombre d'heures de travail pour la réaliser. Est-ce que vous nous parleriez de cette galette bogue cette année que vous avez réalisée?
Alors, toutes les galettes qu'on va proposer restent dans le même schéma. C'est-à-dire que pour moi, une galette, c'est du feuilletage et de la crème d'amande. Donc, toutes les galettes ont cette base-là. Et la galette Bock, en revanche, on l'a mêlée avec une crème à base de châtaigne. Cette année, on a travaillé uniquement avec de la châtaigne AOP Ardèche, qui a un goût vraiment très particulier. Et le fait de mêler en fait ces cubes de crème d'amande avec cette crème de châtaigne lui apporte une légèreté et un parfum vraiment différent, quoi. D'autant que après la cuisson, on vient injecter par endroits de la crème de marron, donc c'est redoutable, quoi.
Oui, c'est redoutable. Feuilletage caramélisé, croustillant, crème onctueuse à la châtaigne, cube de crème d'amande, éclat de marron glacé. Il y a juste quelque chose qu'on peut regretter ici autour de la table, Claire Damon, c'est que vous ne soyez pas avec nous pour déguster cette galette. Merci beaucoup, Claire Damon, d'avoir participé à cette
avec
émission.
Plaisir.
À quand la galette, Patrick Roger?
Ouais, j'ai arrêté. Bon. Je laisse faire les grands. Je fais du chocolat. Déjà, ça m'occupe pas mal.
Mais certains font des galettes amandes chocolat?
Oui, mais ça fonctionne pas. Pour moi, une galette, effectivement, c'est comme Claire ce qu'elle fait. Donc ça, c'est essentiel. On va laisser faire les grands. Et puis, moi, je m'occupe
d'autres
de mes
grands chocolats.
Chocolat
voilà, c'est et ça. En amandes.
Ouais. Déjà, j'ai assez de boulot.
On a compris. Merci beaucoup d'être venu, Patrick Roger, aujourd'hui nous parler de cette passion difficile à mener, mais passion néanmoins, à la fois pour le cacao, bien sûr, et pour les amandes. Merci beaucoup. C'est l'heure de la cerise sur le gâteau. Un repas à l'envers. On a commencé par le sucré, on termine dans le dessert par le salé. Avec vous, Pierre et Bernard, la pêche durable.
Oui, je voulais vous parler aujourd'hui de pêche durable, Caroline. On devrait d'ailleurs dire les pêches durables, parce que figurez-vous qu'il n'y a en effet aucun critère universel qui permet de définir une fois pour toutes comment protéger l'ensemble des mers et des océans. Et ceux qui penseraient que la pêche durable est un truc simple à mettre en œuvre doivent impérativement tenir compte du fait que les poissons ont la fâcheuse manie de se déplacer sans tenir compte des frontières. Pour s'y retrouver, je vous propose donc trois principes simples. Le premier, assez intuitif, repose sur l'état du stock et sur la capacité d'une espèce à se reproduire dans les meilleures conditions sans que le stock ne s'appauvrisse ou, pire, tende à disparaître. Évidemment, ce critère est différent en fonction des espèces et des espaces maritimes concernés. Pour prendre un exemple simple, 1 milliard de personnes dépendent du poisson dans la zone Asie-Pacifique comme source de protéines et la région concentre 80% des pêcheurs et des fermes aquacoles. Le contrôle de la situation s'avère donc bien plus sensible à cette échelle géopolitique qu'en Europe, par exemple. Deuxième paramètre, largement aussi compliqué à contrôler, l'impact environnemental. Par exemple, on vérifie que les pêcheries limitent leur usage d'énergie fossile, trient leurs déchets, assurent à l'équipage de bonnes conditions de vie à bord, d'emploi, de formation et de sécurité, et polluent peu. Enfin, dernier critère, la biodiversité doit être préservée, et la survie d'une espèce ne doit pas, par exemple, amener à la destruction d'une barrière de corail. On l'aura compris, protéger les océans relève du croisement de multiples paramètres qui doivent, qui plus est, être nécessairement partagés à un niveau international. Et en fait, je dirais que, au-delà des institutions, seule la somme des investissements et des énergies d'humains convaincus et engagés peut protéger les océans.
Est-ce que du coup, dans ces conditions, le consommateur peut être lui-même un des acteurs engagés dont vous parlez?
Eh bien Caroline, la réponse est définitivement oui. Mais il va falloir qu'il soit très attentif et surtout très créatif. Attentif d'abord au moment de l'achat, puisque selon une enquête publiée peu avant Noël par l'association de consommateurs UFC Que Choisir, une grande partie des poissons présents aujourd'hui sur les étals des grandes surfaces ne sont pas issus de la pêche durable, notamment le cabillaud, la sole et le bar. Et même si quelques acteurs majeurs de la grande distribution se sont mis au travail pour devenir vertueux, on parle plus d'objectifs à horizon 2022, voire 2025. Le consommateur serait donc bien avisé de s'intéresser dès aujourd'hui à deux labels fiables, l'écolabel français Pêche durable et le label international MSC, qui signifie Marine Stewardship Council. Mais la solution la plus active et la plus efficace, Caroline, c'est cuisiner. Pourquoi? Eh bien, pour arrêter de consommer toujours la même chose. Attaquons-nous donc à des recettes de chinchard, de congre, de grondin, de mulet ou de pajot, en vérifiant scrupuleusement que c'est la bonne saison pour les acheter. Comment? Eh bien, en téléchargeant l'application gratuite, la plus efficace qui soit, qui s'appelle Mr. Goodfish, qui a été créée en 2002 sur une base associative et européenne, et qui se résume elle-même par « bon pour la mer, bon pour vous ».
Merci beaucoup Pierre et Bernard. Cette chronique est à retrouver à la fois sur le site des Bonnes Choses et sur le site d'Alimentation Générale. Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aïgoui Chichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour Jean-Guilain Meige, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzman.